9h01, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison de l'émission de Garde 24-7 qui est présentée ce soir à Télé-Québec, 20h. Et c'est une série qui est tellement bien faite et qui remporte un énorme succès. Et ce qui est encore plus particulier cette année, c'est qu'on entre à l'hôpital alors que le virus commence à se manifester. On est au mois de janvier dans ce premier épisode. C'est là où on voit exactement d'où on partait. C'est-à-dire avec peu de connaissances, même si les professionnels de la santé ont l'habitude de mettre des équipements, c'était fort différent, et de voir comment tout ça a évolué. J'en parle avec le docteur François Marquis, chef de l'unité des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, et que vous allez retrouver dans cette série. Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
Je regarde les premières minutes de l'épisode et j'ai l'impression que les gens sont « OK, il y a un virus, on entend parler de ça, il y a des cas en Chine ». Mais c'est que progressivement, vous apprenez à savoir ce que c'est que ce virus-là puis comment traiter les gens. C'était comme apprentissage sur le terrain.
Oui, c'était exactement ça. En fait, on apprenait à mettre un parachute pendant qu'on était en chute libre. L'image est forte, les images sont fortes, c'est très, très, très bien fait et c'est très réaliste. Mais effectivement, on était absolument avide de tout ce qui se passait autant en Asie qu'en Europe, pour essayer d'aller chercher un maximum de préparation, et ça jusqu'à la dernière minute, dans les premiers jours. Moi, je me rappelle d'avoir fait des conférences avec des gens en Italie, des conférences médicales, là, où les docteurs étaient en Italie, dans leurs unités de soins intensifs, avec leurs scaphandres, là, puis ils nous racontaient, ils nous disaient, « OK, attendez-vous à ça, préparez-vous pour telle chose, c'est comme ça qu'on a réglé tel problème. » Et ça, moi, j'avais jamais vu ça dans ma carrière, là, de me faire coacher par quelqu'un qui avait juste peut-être quelques semaines d'avance sur moi dans la catastrophe.
Quand on voit médecins, infirmières ou autres professionnels entrer dans la pièce où le patient se trouve, il est isolé dans cette pièce-là, quand on regarde l'émission, là, on se pose la question, est-ce qu'ils ont la chienne? Vous êtes beau être des docteurs, là, des professionnels, vous dites, cette personne-là a un virus, peut-être, j'ai beau avoir de l'équipement, mais... Est-ce qu'on y pense ou on ferme les yeux et on y va?
On y pense tout le temps, on ferme pas les yeux puis on y va. L'idée là-dedans, c'est qu'effectivement, on avait l'équipement de protection nécessaire, puis consciemment, on sait qu'on est protégé, mais consciemment, on sait aussi que c'est tellement facile de faire une erreur, d'enlever son masque au mauvais moment, des gestes anodin là, d'aller se gratter le nez, là, d'éternuer dans un masque comme ça, c'est toutes des petites choses de la vie, mais un coup que t'es éternué là-dedans, là, tu sors comment de la pièce? Et c'est, on sait que le danger de la contamination, c'est quand on enlève les équipements. C'est que le moment où les gens sont les plus aux aguets, c'est vraiment quand on enlève les équipements, et c'est là qu'on avait, nous, des gens qui nous surveillaient. Parce que c'est trop facile de faire une erreur, et surtout dans les premiers jours, premières semaines, quand on enlevait les équipements, tu fais pas ça tout seul, justement pour que si tu te contamines, on puisse réagir tout de suite.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, actuellement, là, c'est pas mal réglé, il y a peu de cas, il y a quelques régions, là, Québec entre autres, Laval, mais disons qu'on lève un peu le pied, il y a depuis quelques semaines, on l'observe, là, un certain nombre de gens pour qui, là, on s'excite pour rien, puis qu'on n'a pas à, disons, intensifier les mesures ou encore garder là, le masque. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier ministre vient de dire qu'il faut avoir des amendes et tout ça pour les gens. Vous dites quoi à ces gens-là là, qui sont sceptiques en disant c'est pas si pire que ça, finalement?
Bon, premièrement, je leur recommande fortement de regarder les deux prochains épisodes de 24-7. Au moins, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, parce que malheureusement, ces gens-là se basent souvent sur l'expérience des autres et visiblement n'ont pas eu personne dans leur famille proche qui ont été touchés. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce virus-là, présentement, il est dormant simplement parce que on fait nos efforts et que on est toujours à quelques jours de repartir une vraie deuxième vague. Et si on veut maintenir que la deuxième vague ne sera que des petites éclosions avec des petits impacts locaux sans revivre la première vague, c'est seulement à condition que tout le monde continue d'être vigilant et diligent. Et si les gens ne le font pas, moi, je suis un grand croyant dans la responsabilisation des gens, mais des fois, il y a des gens qui ont besoin que plus que de la responsabilisation pour comprendre. Et je peux comprendre là, que le premier ministre aussi est tanné.
Oui, je pense que c'est assez clair. Quand vous regardez les préparatifs pour cette deuxième vague potentielle, est-ce que, comment je dirais ça? On va vous poser la question très directement. Là. Moi, j'ai une préoccupation pour les patients non-COVID. C'est-à-dire que si on a des cas, le nombre d'hospitalisations augmente, vous êtes aux soins intensifs, ça prend plus de ressources. S'il y a des infirmières qui sont en isolation à domicile parce que leur enfant fréquente une école puis ils l'ont sorti de l'école. Autrement dit, là, s'il y a de l'absentéisme, si on a plus de cas à l'hôpital, j'ai l'impression que malgré la bonne volonté, il y a des cas de gens qui attendent des chirurgies, puis parfois des cas graves de cancer ou d'orthopédie, ça va être repoussé dans le temps.
Ça va être effectivement le grand défi de la deuxième vague. Je pense que c'est une crainte qui est partagée dans le réseau. Tu sais, des gants, des masques, des médicaments, là, on a des montagnes, là. Je suis allé vérifier, on a vraiment des montagnes, c'est assez impressionnant. À partir de là, le problème, ça va être la gestion du personnel. On sait qu'on a eu la commande dans le système de santé d'avoir une gestion de la pandémie qui ne devrait pas avoir d'impact sur les soins courants, exactement ce que vous avez mentionné. Mais pour nous, le personnel va être l'enjeu numéro un parce que ça, ça ne s'achète pas. Je peux pas les trouver ailleurs, je peux pas en commander ailleurs et ça va être notre élément de gestion, d'où l'importance que chaque citoyen, citoyenne doit absolument faire son effort pour empêcher que la deuxième vague bouffe les ressources qui restent dans le système de santé. Et ça, c'est un défi de population. Chaque personne à la maison a son rôle à jouer.
Je reviens à l'émission comme telle parce que, bon, au début, l'équipe de tournage vous accompagne et arrive un moment où vous avez ce qu'on appelle, là, pour les gens qui connaissent pas ça, une caméra GoPro. Là, c'est vous qui devenez le caméraman de vos propres mouvements. C'était quoi l'ambiance quand on tourne de cette façon-là puis qu'on a une caméra sur la tête ou bref, ça se passe comment?
Bien, c'est assez particulier. Il faut comprendre qu'on avait tellement de pénurie d'équipement et il y avait tout l'élément de contagion, donc il n'était pas question pour une équipe de tournage de venir sur les lieux. Et ils nous ont donc donné cellulaire, GoPro, tout le kit. C'est assez particulier parce que nous, il faut assurer notre travail, il faut aussi le documenter. On était extrêmement conscients que c'était assez une occasion unique de documenter ça de l'intérieur. C'est que ça nous a permis de faire des petites alliances où une infirmière qui était moins occupée prenait son cellulaire. Il y a des médecins qui se promenaient avec des caméras accrochées sur eux autres. Mais c'est assez particulier de se faire coacher, de se faire donner des cours de caméra. Ça paraît par contre qu'on n'est pas des professionnels de la caméra. On ne gagnera pas un Oscar de l'image avec ça. Là.
Mais vous êtes des professionnels de la santé, par exemple. C'est vraiment impressionnant. Hier, là, d'abord, c'est bien fait, c'est bien monté. Puis comme vous dites, ça permet aux citoyens d'aller voir ce qui s'est passé au début. Puis les gens qui ont des doutes, puis les gens qui pensent qu'il n'y a rien là, vont pas mal déchanter. Et oui. C'est une bonne leçon à donner, je trouve.
Oui, et c'est effectivement la raison pour laquelle on a tous embarqué là-dedans, parce que dès le début, là, on avait là la désinformation, les gens qui disaient que c'est une conspiration, et ça a tellement été isolé ce qui a été fait dans les hôpitaux qu'il n'y a rien qui a transparu. Et là, pour nous autres, c'était vraiment important de dire non, il va y avoir une documentation réelle de tout ça. Et le rendu final par l'équipe de Vendy, je veux dire, c'est incroyable ce qu'ils ont fait et la chronologie est là et les émotions traversent. Moi, je l'ai vu aussi, la séquence, et on revivait, on se rappelait ces moments-là et c'est assez spécial. On n'a pas vu ça beaucoup dans la télévision québécoise et dans la télévision en général.
Merci beaucoup, Dr. Marquis. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Dr. François Marquis, qui est de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis vous allez le voir dans l'émission de garde 24-7, et c'est ce soir, jeudi, donc 20h à Télé-Québec.